Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M, la radio de Vues et Voix, pour vous présenter cette émission des livres plein les oreilles. On dit toujours qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Eh bien, il y aura pas mal de conversations avec Dieu dans les livres dont nous parlerons aujourd'hui, et à commencer par ce nouveau roman de Laurent Gounel, « Les dieux voyagent toujours incognito ». Là, je dis « les dieux », parfois ça se présente sous le nom de « Dieu tout court ». Je ne sais pas trop pourquoi ça a changé en cours de route, mais peu importe, peut-être que Martin Gagné, qui a lu, ce livre ici même chez Vues et Voix pour Audiolib, eh bien peut-être qu'il connaîtra la réponse, puis s'il ne la connaît pas, c'est vraiment pas plus grave que soi. Que ça, je le reçois. Donc, Martin Dégagné, il va aussi être question de Dieu qui ne vit pas toujours à la Havane, de Dieu qui fiche le bazar sur Terre dans La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Ça, c'est une série que j'ai eu le plaisir de lire pour Gallimard, pour cette fantastique collection de livres audio qui s'appelle Écouter lire. Il sera aussi question de Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, disponible absolument partout en audio et même sur YouTube. Donc, vous dire comment ça peut pas être plus gratuit que ça. Et puis, oui, il est partout ce Dieu-là qui veille à ce qu'on fait de bien ou de mal, comme par exemple de faire entrer cette chanson de Félix Leclerc dans nos écoles. Ça, c'est très mal. Et Dieu devait vraiment pas être content du tout. Fallait que cela cesse. Mais pas chez nous, à Canal M.
Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, voici la plus efficace. Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil. La plus onéreuse, c'est le coup de canon. Ça demande une équipe entraînée au bruit. Il y a toujours la corde dite pendaison. Pour le nœud coulant, faut avoir le don. Sûr que la noyade attire les moroses, mais pas garanti parce que l'eau réveille. Y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaires, mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Le rasoir, ma foi, cette saloperie, assez fanatique parce que c'est tranchant. La hache, le couteau et la scie aussi, mais c'est un domaine bourré d'accidents. Très peu efficace est la collision. Ça brise une face, laisse des lésions. Pour mourir de soif, faut la volonté, le dégoût de l'eau, surtout la santé. Non, vraiment, j'y tiens. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à de rien faire. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus achalandée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut, en transe, mais les deux sont jolis. Le rire toujours comique et l'autre romantique. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide, pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est les sens dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
Et quand je pense qu'on l'a interdite dans une école, celle-ci. Eh ben franchement. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, c'est Clotilde Seille, c'est l'émission des livres plein les oreilles, et j'ai en face de moi Martin Dégagné, comédien. Bonjour Martin.
Bonjour.
Martin, lorsque j'ai découvert votre CV, je suis allée sur le site de Ginette Achin,
oui.
Il y a tout de suite une phrase qui m'est apparue, qui est une phrase signée Bernard Aimant, qui dit ceci, parce que je ne voudrais pas déflorer quoi que ce soit. Pour qu'il y ait une œuvre, il doit y avoir rupture des certitudes et des rencontres. Et rencontres. C'est exactement ce qui se passe dans le livre que vous avez lu pour nous, chez Vues et Voix.
Oui, absolument. Absolument.
Dieu voyage toujours incognito, de Laurent Gounelle. On parle un petit peu du bouquin, mais je voudrais aussi qu'on parle de vous, Martin. Et je voudrais que les gens découvrent votre voix. Moi, quand j'ai ouvert ce livre audio et que j'ai entendu votre voix, je me suis dit... Voilà.
Ah, mais c'est bien gentil.
Si vous avez l'impression que j'ai un petit violoncelle, bah, vous avez ici une contrebasse en face de moi. On va faire dans les graves, mes amis. Montez un peu les aigus. Alors, ce livre de Laurent Gounelle, j'aimerais qu'on commence par le début. Bon, de quoi s'agit-il d'abord, de ce bouquin?
Oui, mais on a un homme au début qui est vraiment perdu.
Oui.
Il se questionne sur le sens de sa vie. Il se croit vraiment pris dans un coin, incapable de mener sa vie à sa façon.
Ouais.
Et puis, il en vient à penser que la meilleure solution est d'en finir. Et c'est vraiment au dernier moment qu'il va rencontrer un être mystérieux qui va lui tendre une perche,
ouais,
et qui va l'inciter tranquillement à prendre sa vie en main, pour vrai,
ouais,
et d'apprendre comment le faire.
Oui.
Alors, ça devient une relation assez mystérieuse et passionnante.
Alors, Dieu, ce gars-là, se prend pour une espèce de Dieu, pour les gens qui n'ont pas ouvert le bouquin, là, pour l'instant, qui ne savent pas du tout de quoi ça parle.
Mais en fait, on a presque l'impression que c'est une sorte de diable au début.
Oui, oui,
c'est,
oui.
Qui le tente, qui le provoque, oui, qui passe un marché avec lui, un marché où on a l'impression que le personnage a beaucoup à perdre.
Oui,
mais...
il va l'utiliser, on pense qu'il va l'utiliser,
oui,
quelque part.
Oui, c'est ça, il va se faire utiliser, oui, par cette personne qui lui donne la possibilité de continuer sa vie et d'avoir accès à une vie libre.
Oui, alors il s'y prend d'une drôle de façon, il va lui demander toutes sortes d'affaires aussi farfelues les unes que les autres. On parlera pas de tout, on dira pas tout parce que sinon on va trop en défleurer, mais on peut quand même citer... la première affaire, par exemple, quand il lui dit, vous allez rentrer dans une boulangerie, puis vous allez prendre une baguette. Puis finalement, non, vous allez prendre un croissant. Puis finalement, vous allez sortir, vous n'allez rien prendre. Et là, il dit, non, mais attendez, moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas envie de passer pour un emmerdeur.
Mm-hmm.
Puis l'autre lui dit, alors, vous ne les reverrez jamais. Donc, alors, il lui fait faire tout ça. Pourquoi est-ce qu'il lui fait faire tout ça? C'est dans quel but, Martin,
oui,
Légagné?
Ben c'est ça, c'est un peu dans ce but de se libérer de ses propres limites. Parce que souvent, dans la vie, pour ne pas déranger, on va essayer de se conformer, de faire ce que les gens attendent de nous. Mais pour être soi-même, quelquefois, oui, ça dérange.
Ouais.
Pour exister, oui, et ça arrive que ça dérange les autres. Et il faut, à quelque part, pour se sentir libre de faire ce qui est important pour nous, on doit accepter de déranger.
Ouais.
Et donc, c'est un entraînement qu'il va lui proposer, qui va l'amener toujours à se rendre un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, oui, dans cette envie d'être lui-même et de repousser ses limites.
Alors, ça va fonctionner, hein, relativement bien. Je sais qu'à un moment donné, je me souviens plus en quelle page, voilà, ici, il lui dit, mais regardez, déjà, si on fait un petit résumé de ce qui a changé chez vous, et on s'aperçoit après, mettons, 3 ou 4 expériences comme ça, dont une où on lui demande de faire dire un mot à 2 personnes. Et il va dire ça, et lui, il choisit 2 personnes parmi ses bosses. Il faut préciser aussi quand même que ce type-là, son travail consiste à recevoir des gens et à en mettre de côté ou non, donc d'avoir des entretiens avec eux pour savoir si ces personnes-là sont capables d'obtenir tel ou tel travail. Autrement dit, c'est lui qui est en position de pouvoir, là.
C'est ça, c'est une agence de placement.
De placement. Donc, ouais, c'est lui qui est en position de pouvoir, mais en face, souvent, ce sont des gens qui doivent être finalement comme lui, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont aucune estime d'eux. Et là, lui, même ça, il n'en profite pas, quoi. Et autour de lui, c'est le sarcasme total. Et un jour, ils ont une réunion, pour vous donner une idée. Et le boss leur dit, écoutez, on a remarqué quelque chose. Celui qui passe trop de temps avec un de ces individus-là, finalement, ce sont toujours ceux qui ne fonctionnent pas. Alors, passez donc moins de temps. Mmh. Puis les autres, là, mettez-les à la poubelle.
Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'on par la bande, on va critiquer tout le côté de l'obsession de la production et de la performance. Mmh. Qui est partout autour de nous.
Qui lui, il supporte pas ça, Alan, le personnage. Lui, il veut bien faire les choses, point, quoi.
Ben oui, c'est ça, c'est comme un peu notre alter ego de chacun qui ouvrons ce livre, qui écoutons ce livre. On a envie de bien faire, mais on est pris dans un monde qui nous amène à aller toujours plus vite, ouais, à toujours être plus performant. Ouais. Et là, où est-ce qu'on met nos limites, nous? Ouais. Et on est attiré par ce train-là, mais...
Il vous a fait réfléchir, ce bouquin-là? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, tiens, moi aussi, après tout, j'irai bien dans une bijouterie, essayer des montres en or, puis leur dire, hop, finalement, non?
Ben, je ne me suis pas rendu jusqu'à faire ces exercices-là, mais oui, ça m'a fait réfléchir. Oui, oui. Bon. Ça m'a fait réfléchir à moi-même, comment je vis et jusqu'où je suis capable de faire les choses que je pense qui doivent être faites.
Ouais.
Et comment je peux passer par-dessus le fait de déranger à certains moments. Parce que oui, je pense que tout le monde peut se reconnaître à certains moments. J'ai pas osé le dire que ça me dérangeait parce que moi-même, je voulais pas déranger. Et puis, chacun dans sa mesure.
Exactement.
Chacun a quand même intérêt à se questionner sur ses limites.
Alors, on va recommencer là par le début, parce que honnêtement, la scène, il choisit la Tour Eiffel pour se foutre en l'air, Alan. Et honnêtement, dans les pages qui précèdent, donc le moment où il s'apprête à sauter, juste avant que le Yves Dubreuil, qui est assis sur une poutrelle en train de fumer son cigare, ne l'interpelle, il est, honnêtement, là, j'ai eu le vertige comme quand on regarde un film et qu'on est sur le rebord. Je ne sais pas pour vous quand vous l'avez lu à haute voix, Martin Desgagnés, mais oui. Moi, là. Alors, je vous retrouve, on vous retrouve, vous, lecteur, et on retrouve notre protagoniste principal, parce que peut-on parler d'un héros, en tout cas, en haut de la Tour Eiffel. Et on écoute un extrait de Les dieux voyagent toujours incognito.
Mes jambes flagellèrent. Je faillis défaillir. La tête me tournait, j'avais un mal au cœur extrême. Ne pas regarder en bas, surtout pas rester droit, me concentrer sur lui, ne plus le quitter des yeux. « Je peux être, » dit-il après un silence et en articulant lentement, « quelque chose à te proposer. » Je restai muet, suspendu à ses lèvres. Une sorte de marché entre nous, continua-t-il, laissant ses paroles flotter dans les airs. Un marché ? Balbutiai-je. Voilà. Tu restes en vie, et moi je m'occupe de toi, de te remettre dans le droit chemin, de faire de toi un homme capable de mener sa vie, de résoudre ses problèmes, et même d'être heureux. En échange, il tira une nouvelle bouffée de cigare avant de continuer. En échange, tu t'engages à faire tout ce que je te dirai. Tu t'engages sur la vie.
Quelle voix! Martin Desgagnés, vous travaillez beaucoup avec votre voix.
Oui,
vous-même.
Oui. Oui, je fais du doublage quand on double en majorité les films américains en français.
Ouais. Est-ce que vous avez un rôle? Est-ce que vous avez un comédien que vous doublez régulièrement?
Je fais souvent Chris Hemsworth, qui est l'acteur qui fait Thor, le super-héros de Marvel, dans les Avengers.
C'est pas vous, Thor. Oh!
Oui, voilà. le dieu scandinave.
Écoutez, je vais faire rire les auditeurs parce que vous serez peut-être partis à ce moment-là, mais en seconde partie, moi, je vais vous parler de Thorn. Et c'est moi qui joue Thorn dans le bouquin que je lis.
Ah oui.
Et je me suis toujours dit, ça me fait penser, est-ce qu'ils l'ont appelé Thor à cause de Thorn? Et ils lui ont donné aussi une voix grave. C'est vous qui faites ça. OK. Oui. Je rappelle que j'ai invité Martin Desgagnés parce que c'est lui qui a lu pour Audiolib dans les studios de Vues et Voix, ce livre de Laurent Gounel, « Les dieux voyagent toujours incognito ». Mais je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de vous, Martin Desgagnés, avant que je vous laisse partir. On prend conscience à quel point les comédiens doivent être multiples, souvent lorsqu'on découvre leur CV. Et c'est tellement vrai pour vous. C'est quand même fou. Enfin bon, vous avez tourné dans des séries populaires, certes, mais vous avez fait aussi beaucoup de... Vous avez travaillé comme réalisateur, vous avez fait des courts-métrages. Ouais. Vous avez été donc réalisateur, vous avez fait de la mise en scène, vous avez fait de la formation, du doublage, vous écrivez. Mm-hmm. On est obligé de faire tout ça aujourd'hui quand on est comédien, Martin Desgagnés. Hein?
Y en a beaucoup, oui, qui ont plusieurs chapeaux.
Ouais.
C'est sûr que ça dépend de notre façon de voir le métier. Il y en a qui sont quand même plus des spécialistes qui vont faire une chose et qui vont la pousser à l'extrême. Il y en a d'autres comme moi qui sont plus des généralistes qui vont un peu toucher à tout parce que tous les aspects du métier nous semblent intéressants.
Cette voix-là, c'est une voix... Est-ce que c'est un don de Dieu? d'Yves Dubreuil ou vous l'avez travaillé?
Ah, mais c'est peut-être un mélange des deux.
Un mélange des deux. Mais vous l'avez travaillé aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que vous savez, à un moment donné, j'avais posé la question à Dany Laferrière, qui a aussi une voix très, très grave comme ça. Et Dany Laferrière, quand il a commencé, puis qu'il faisait la météo, quand il est arrivé, à un moment donné, j'avais retrouvé ça à la télévision. Et alors, il avait la voix comme ça, et tout d'un coup, il nous parle. Je dis, mais dites donc, cette voix grave, là. Ben, il me dit, oui, mais au départ, c'était pour séduire les filles. Et puis finalement, ben, je m'en sers tout le temps.
Maintenant, il séduit plus de gens.
C'est ça, exactement. Et le livre, est-ce que vous en aviez déjà lu des livres audio, Martin Desgagnés?
Non, c'était ma première fois.
Oui.
Oui, j'ai vraiment adoré l'expérience.
C'est le fun, hein? Cette espèce de suggestion, pas de jeu, mais suggéré. Puis...
Oui, j'ai vraiment aimé. Puis, ben, c'était un superbe livre aussi pour commencer parce que je l'ai vraiment lu avec beaucoup d'intérêt.
Mais pas facile parce qu'il y a un talent que vous avez peut-être, et ça, vous n'êtes pas nombreux. Exactement de la même façon que les Français, même si ce sont d'excellents comédiens, n'arrivent jamais à poigner l'accent québécois. Vous, en plus, c'était un livre commandé par une maison de production et d'édition française qui est Audiolib, d'ailleurs, qui est une maison dont je parle beaucoup parce qu'ils font des livres vraiment excellents. Et il ne fallait absolument pas que pointe une once de l'accent québécois parce qu'ils nous le disaient. Mais avec vous, il n'en revenait pas. Vraiment, c'est comme si c'était un Français qui... c'est pas... Quand je dis un Français versus un Québécois, on s'entend que c'est pas... Il n'y a pas là d'esprit critique de ma part.
Non.
Mais c'est vrai que même les gens qui ont un accent international parmi toute la communauté artistique, l'accent international, c'est pas tout à fait l'accent français. Mais de la même façon, ne me demandez pas de prendre l'accent québécois. Ça me prend plusieurs verres de vin pour y parvenir un peu. Mais au fond, il y aura toujours un fond d'accent français. Vous avez réussi à faire passer l'accent français avec brio. Vraiment.
Merci.
Alors, pour découvrir ce bouquin, bien sûr, sur Audiolib, mais aussi sur la plupart des plateformes, hélas, pas sur la nôtre, livreaudio.vuesetvoix.com, mais là, vous savez que vous avez beaucoup d'autres choix à vous mettre entre les oreilles. Merci beaucoup, Martin Desgagnés. Je vous souhaite le meilleur pour la suite des choses et j'espère qu'on vous reverra en studio ici.
Ah, mais c'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Venir les larmes aux yeux. Tu es mon
dire que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux.
Tout près de toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane, et la dernière, je veux de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. De toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane, et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Mélanger Madame Catherine Deneuve avec Monsieur Serge Gainsbourg pour Dieu est un fumeur de Havane. Et ça nous amène forcément, puisqu'on reste avec Dieu, je vous ai dit que Dieu allait faire beaucoup partie de cette émission-là, au livre de Yasmina Kadra. Il me semble que je l'avais déjà évoqué, mais il y a pas mal de temps, ce livre-là, dans le cadre de cette émission. C'est un livre de Yasmina Kadra. Nous nous retrouvons à Cuba, bien sûr, à l'heure où le régime castriste s'essouffle avec Don Fuego, qui chante dans les cabarets de la Havane. Jadis, c'est quelqu'un qui a eu une voix absolument magnifique, qui électrisait les foules. Mais au moment où on retrouve ce personnage dans ce livre-là, eh bien, les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder la place. Livré à lui-même, il va rencontrer Mayensi, qui est une jeune fille rousse et belle comme une flamme, nous dit-on dans le livre, dont il tombe éperdument amoureux. Mais le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace sur cette improbable idylle. On nous dit dans le... Ça, c'est sorti en livre audio, que je ne dise pas de bêtises. C'est chez Audiolibre aussi. On nous dit que ce chant dédié aux fabuleuses destinées contrariées par le sort, Dieu n'habite pas à La Havane, est aussi un voyage au pays de tous les paradoxes et de tous les rêves qui allie la maîtrise et le souffle d'un Steinbeck contemporain. Et M. Kadra, l'auteur, qui mène une réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, sans cesse contrebalancée par la jubilation de chanter, de danser et de croire en des lendemains heureux. Dans l'extrait qu'on va entendre, c'est relativement au début du livre, lorsque le cabaret où se produit Don Fuego va fermer ses portes et il l'apprend de cette façon-là.
Pedro n'aime pas trop se lever, car il est petit et a les jambes arquées. Assis, il est à son aise, les mains croisées sur sa bedaine de Bouddha en méditation. Malgré la cinquantaine, pas un cheveu blanc ne fausse le noir de sa toison crépue. C'est quelqu'un de bien, un peu lourdeau, mais compréhensif et généreux. Louis a beau lui en rapporter des vertes et des pas mûrs sur les agissements du personnel, pas une fois Pedro n'a sévi contre qui que ce soit. Sa mine me déplaît d'emblée. Il me désigne une chaise, me propose une bière que je refuse en restant debout. « Tu tombes de sommeil ?» lui dis-je. « Ça ne pouvait pas attendre demain ?»« Demain est un autre jour, Juan. » Il porte un bout de cigare à sa bouche, l'allume et se détourne pour ne pas me jeter la fumée à la figure. « Toute chose a une fin, » grogne-t-il, énigmatique. « Je n'aime pas qu'on tourne autour du pot, Pedro. Va droit au but. C'est à cause de l'incident avec Marcus, c'est ça ? Que s'est-il passé avec ce crétin ? Je ne suis pas au courant. Dans ce cas, pourquoi me retiens-tu ici après le spectacle ? J'ai besoin de me reposer. Tu as vu comment j'ai enflammé l'assemblée ? Oui, j'ai regardé par la fenêtre. Alors c'est quoi le problème ? Pedro tire avec hargne sur son reste de cigare avant de l'écraser dans le cendrier. Notre bonne vieille boîte passe la main, mon ami. Ce soir, à minuit, elle change de statut. Il consulte sa montre. Et il est 1h31. Je te demande pardon. Le Buena Vista tourne la page, Juan. Une dame de Miami vient de l'acheter dans le cadre de la privatisation décidée par le parti.
Voilà, ça s'appelle « Dieu n'habite pas à la Havane » de Yasmina Kadra. C'était pour vous présenter un autre livre sur Dieu. En fait, j'en avais d'autres en réserve, mais on a passé un si bon moment avec Martin Desgagné, que finalement, j'ai manqué un petit peu de temps, mais on ne sait jamais en seconde partie. Hein. Peut-être que je vais récupérer ce temps-là, que je pourrais vous présenter d'autres livres où Dieu est un peu le personnage central. Vous venez juste de vous joindre à nous, c'est Clotilde Seille qui vous présente des livres plein les oreilles sur les ondes de Canal M, la radio de Vues et Voix, ou peut-être nous entendez-vous via d'autres radios qui ont eu la gentillesse, bonjour Nadera, de diffuser cette émission, votre émission consacrée aux livres audio. Restez là, dans quelques minutes je vous parle de La Passe-Miroir. C'était Bernard Gabet qui lisait « Dieu n'habite pas à La Havane ». Des livres plein les oreilles, seconde partie. Alors Dieu sera encore bien présent à cette émission-là, mais on va aussi bien rigoler avec un extrait de livre audio signé San Antonio. Ça, c'est un livre qui est en lice pour le Grand Prix du livre audio de la Plume de Pan, dont je vais vous parler. Je vais aussi, si le temps nous le permet, vous présenter Dominique Pinon, qui enregistre pas mal de livres audio. C'est un comédien français. Mais pour débuter, je voudrais que vous fassiez connaissance avec une jeune fille, timide, maladroite, qui possède le don d'animer les objets, qui parle avec un filet de voix. Elle s'appelle Ophélie. Elle est l'héroïne d'une série française que les vieux ados ou les jeunes adultes, ou d'ailleurs tous les adultes de n'importe quel âge, ont littéralement dévoré en France quand c'est sorti par écrit. La série s'appelle « La passe-miroir », car oui, ça aussi, elle le fait, passer les miroirs. Et c'est une série vraiment passionnante, c'est en 4 livres. Imaginez, 70 personnages, je ne sais plus combien de pays, dont la Terre de Babel, ça vous évoque certainement plein de choses, où cohabitent bien sûr toutes sortes de nationalités, de personnalités et de religions différentes. 2600 pages de rebondissements, d'aventures, d'histoires aussi, car nous ne sommes jamais bien loin des origines de la terre et du ciel. Et figurez-vous que c'est sur mon bureau que ce projet a atterri. Voilà 8 mois maintenant que je décortique et que je lis cette série à voix haute. Une série qui, aujourd'hui, est disponible complètement. Ben, le quatrième, au moment où je vous parle, s'il n'est pas encore sorti, il va l'être là, parce que je vous explique. En fait, je ne devrais pas être là au moment où vous m'entendez, c'est que j'aurais dû être au Salon du Livre à Paris, où Gallimard, qui a sorti cette collection-là sur papier, en collection jeunesse, c'est également Gallimard dans la collection Écoutez Lire qui a sorti cette série en audio, donc que j'ai eu la chance et le bonheur hein, de lire, évidemment. Eh bien, j'étais invitée par Gallimard, mais comme vous le savez, coronavirus aidant, eh bien, bye bye le Salon du Livre pour cette année. Il n'est même pas repoussé, il a été purement et simplement annulé. Remarquez, ça me permet d'être avec vous, du coup, tout le temps, le fait que ce voyage-là ait été annulé. Mais ça me permet aussi de vous présenter un petit peu mieux et un peu plus longuement cette passe-miroir, maintenant disponible, les 4 livres chez Gallimard, collection Écoutez Lire. Pour ceux qui s'interrogent un petit peu sur ce que contient ce livre, je vous dirais que c'est une sorte d'Harry Potter, mais plus fouillé dans le sens que l'histoire, les enjeux, les règlements de compte ne sont jamais bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. À une énorme différence près cependant, c'est que dans cette fiction très mouvementée, parfois aussi très drôle et pas mal portée sur la spiritualité, les mots guerre, violence, armes, coups, couteaux, tout ustensile pouvant tuer, tout ce vocabulaire s'est un jour retrouvé interdit quelque part, sur Babel notamment, alors que la terre en tant que telle n'existe plus, mais que sur ses arches vivent des populations disparates. Je vous dirais, bizarrement presque moyenâgeuses. Vous me suivez ? Non ? Vous allez être obligé de lire cette série, puis en attendant d'en écouter un extrait.
Ophélie scrutait l'obscurité, échevelée, les paupières collées de sommeil. Quelque chose l'avait réveillée, mais elle ne savait pas quoi. Redressée sur son lit, elle contempla les contours flous de la pièce. Par-delà les rideaux en brocart du baldaquin, elle distinguait à peine la fenêtre à croisillons. La nuit pâlissait sur les carreaux embués. Ce serait bientôt l'aube. Elle prêta attentivement l'oreille au silence que rythmait la pendule de cheminée. Qu'est-ce qui avait bien pu la réveiller ? De petits coups résonnèrent soudain à la porte. Elle n'avait donc pas rêvé. Dès qu'elle repoussa son édredon, Ophélie eut le souffle coupé par le froid. Elle coula un lainage sur sa chemise de nuit, trébucha contre un repose-pied sur le tapis et tourna le bouton de la porte. Une voix abrupte lui tomba aussitôt dessus.
« Ce n'est pas faute de vous avoir mis en garde. »
Un immense manteau noir, lugubre comme la mort, se détachait à peine sur la pénombre du couloir. Sans lunettes, Ophélie devinait plus torne qu'elle ne le voyait. Il avait vraiment une façon bien à lui d'engager la conversation. Elle frissonna encore somnolente dans le courant d'air glacial de la porte, le temps de rassembler ses esprits.
« Je ne peux plus reculer »,
finit-elle par murmurer.
« Il est trop tard, en effet. » Nous allons désormais devoir composer l'un avec l'autre.
Extrait donc de La Passe-Miroir numéro 1, qu'on retrouve dès maintenant avec ses 3 petits camarades, les 3 autres livres qui suivent chez Gallimard, collection Écoutez Lire. Alors, à l'origine de cette histoire, Ophélie, que vous avez entendue avec sa petite voix, myope, timide et maladroite, Ophélie qui cache des dons singuliers, elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorne, le Thorne avec la grosse voix comme ça, qui lui est du puissant clan des dragons, eh bien la jeune fille doit quitter sa famille et son arche et le suivre sur une autre arche qui s'appelle la Citaciel, qui est une espèce de capitale flottante qui fait partie du pôle, ce qu'on appelle le pôle. Alors à quelle fin est-ce qu'elle a été choisie ? Eh bien, sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot qui s'avère mortel. Elle se retrouve au fil des chapitres et des livres, en plein cœur du mystère de la création de Dieu. Juste ça. De ses réussites à Dieu, mais surtout d'une bévue énorme qu'il commet. Alors que les pauvres habitants des Arches, et surtout leurs esprits de famille, ne savent pas encore, au moment où la bévue est commise, tout ce qu'ils vont subir. À Babel, notamment, le mémorial risque l'effondrement. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Les personnages. Alors Ophélie, de la famille et de l'arche des animistes, elle est obligée de porter des gants, parce que sinon elle peut retracer le passé d'un objet qu'elle touche, et surtout de ceux qui l'ont tenu. C'est pas reposant, imaginez, le crayon que j'ai dans les mains. Je pourrais dire qui l'a tenu ce matin dans les mains. Est-ce que c'est Emmanuel? Est-ce que c'est... Donc elle porte des gants et elle porte toujours autour d'elle une écharpe. L'écharpe est importante dans ce bouquin-là. Et une écharpe qui n'arrête pas de se mouvoir, puisque comme c'est elle et qu'elle est animiste qui le porte, Ophélie, eh bien c'est une écharpe qui n'arrête pas de bouger. Parmi les autres personnages, il y a le fiancé Thorne, du clan des dragons, qui est un homme froid et rigide. Il est intendant sur son arche, c'est un bonhomme rude, mais qui va s'avérer un bon méchant. Mais un calculateur tout de même. Et il possède une mémoire absolument prodigieuse que n'ont pas justement les esprits de famille qui cherchent bien à savoir pourquoi. Parmi les autres personnages, il y a Roselyne qui va servir de chaperon à Ophélie quand elle va partir au pôle. C'est l'arche de son futur mari à Ophélie. Particularité, elle a une dentition chevaline. Alors je l'ai personnifiée en remontant mes lèvres. Il y a aussi Berenilde, la femme divinement belle, à la fois distante et charmante. Surtout, une intrigante. Elle aussi, elle cache un passé vraiment difficile qu'on découvre au fil des pages. Et puis, il y a Archibald, personnage multiple, beau, mais qui se néglige, prétentieux de nature, je dirais, baveux, sûr de lui, charmeur impénitent. Mais un personnage, somme toute, sympathique. Et puis, sans compter la famille d'Ophélie, sa mère, ses sœurs, tout ça... Les esprits de famille, sorte de dieux démunis de mémoire et pour la plupart de sentimentalité, ils sont hors normes, soit par la taille, soit par l'intelligence, soit par le physique. Et alors je vous passe les accents qu'on trouve sur les différentes arches, l'anglais, le normand, l'italien, l'espagnol, le chinois. Autant de nuances qu'il fallait donner à ces personnages-là, ben, sous peine de vous perdre, vous, auditeurs, parce que c'est un livre que vous allez écouter par les oreilles. Une chance, il y a des premiers commentaires qui sont élogieux, je suis bien contente, parce que personne ne dit qu'ils se sont perdus au fil des personnages. C'est pour ça qu'il a bien fallu que je les identifie chacun, soit par une tonalité, soit par un accent différent. Et pour vous montrer que ce n'est pas toujours évident, j'ai décidé de faire une expérience en direct pour vous. Je vais vous lire un extrait, plutôt que de vous faire entendre un extrait, je vais vous le lire, là, en direct. Pif, paf, pouf, comme si j'étais en studio au moment de lire La Passe Miroir. C'est encore une fois extrait de La Passe Miroir numéro 1. Une fois encore, Ophélie se demanda qui était Thorne pour ces gens. La forêt lui appartenait-elle donc pour avoir droit à ce rapport en règle?
Et nos mâles? Les coupa la tante Roselyne entre deux claquements des dents. Vous ne les chargez pas sur les traîneaux?
Elle nous ralentirait, dame, dit le garde-chasse en mâchant une chique. Vous inquiétez donc pas, on vous les fera parvenir bientôt chez dame Berenilde.
La tante Roselyne ne le comprit pas tout de suite à cause de son accent et de sa chique. Elle dut lui faire répéter trois fois sa phrase.
Des femmes ne peuvent voyager sans le strict nécessaire, s'offusqua-t-elle. Et monsieur Thorne, il la garde bien sa petite valise, non?
Ce n'est pas du tout la même chose, souffla le garde-chasse, très choqué.
Thorne eut un claquement de langue agacé.
Où est-elle?
Demanda-t-il, ignorant ostensiblement Roselyne. D'un geste de la main, le garde-chasse signala un point vague au-delà des arbres.
Elle traîne du côté du lac, monseigneur.
De qui parlez-vous?
S'impatienta la tante Roselyne. La tête dans son écharpe, Ophélie ne comprenait pas non plus. Elle ne comprenait rien à rien. Le froid lui donnait mal au crâne et l'empêchait de garder les idées claires. Elle pataugeait toujours dans le coton lorsque les traîneaux se remirent en route sous la nuit, gonflant ses jupons de courant d'air. Recroquevillée au fond de l'attelage, ballottée par les cahots comme une poupée de chiffon, elle céda de ses moufles pour empêcher ses cheveux de lui fouetter le vent. Devant elle, Thorne dirigeait leur attelage. Son ombre immense, tendue en avant, épousait le vent comme une flèche. Les grelots étouffés du traîneau voisin qui transportait le garde-chasse et la tante Roselyne les suivaient discrètement dans l'obscurité. Alentour, les branches nues des arbres griffaient le paysage, lacéraient la neige et recrachaient ici et là des lambeaux de ciel. Secouée dans tous les sens, luttant contre le sommeil visqueux qui l'engourdissait, Ophélie avait l'impression
que cette course n'avait pas de fin. Tout à coup, les ombres grouillantes des bois volèrent en éclats et une nuit vaste, cristalline, éblouissante, déroula son manteau étoilé à perte de vue. Les yeux d'Ophélie se dilatèrent derrière ses lunettes. Elle se redressa dans le traîneau et tandis que le souffle glacé de la bise s'engouffrait dans ses cheveux, la vision lui claqua au visage. Suspendue au milieu de la nuit, ses tours noyées dans la voie lactée, une formidable cytacielle flottait au-dessus de la forêt, sans qu'aucune attache la reliât au reste du monde. C'était un spectacle complètement fou, une énorme ruche rognée par la terre. Un entrelac tortueux de donjons, de ponts, de créneaux, d'escaliers, d'arc-boutants et de cheminées. Jalousement gardé par un anneau gelé de douves, dont les longues coulées s'étaient filochées et filochées dans le vide, la cité enneigée s'élançait au-dessus et au-dessous de cette ligne. Constellée de fenêtres et de réverbères, elle réfléchissait ses mille et une lumières sur le miroir d'un lac. Sa plus haute tour, elle, harponnait le croissant de la lune. « Inaccessible !» estima Ophélie, exaltée par la vision. C'était donc cette ville que tante Cogustus avait dessinée dans son carnet. En tête de traîneau, Thorne bascula un regard par-dessus son épaule. À travers les mèches claires qui lui fouettaient le visage, son œil était plus vif que de coutume. « Tenez-vous !» Perplexe, Ophélie s'agrippa à ce qui lui tomba sous la main. Un appel d'air puissant comme un torrent lui coupa le souffle, tandis que les énormes chiens et le traîneau accrochaient ce courant et s'arrachaient de la neige. Le cri hystérique de sa marraine s'étira vers les étoiles. Ophélie, elle, était incapable d'émettre le moindre son. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Plus il s'élevait dans le ciel, plus il gagnait en vitesse et plus son estomac pesait au fond de son ventre. Ils dessinèrent une ample boucle qui lui parut aussi interminable que les hurlements de la tente. Dans une gerbe d'étincelles, les patins se posèrent sans douceur sur la glace des douves. Ophélie sursauta brutalement sur le plancher du traîneau, elle faillit passer par-dessus bord. Enfin, les chiens réfrénèrent leur course et l'attelage s'immobilisa devant une herse colossale.
« La cytacielle !»
annonça laconiquement Thorne en descendant. Il n'eut pas un regard en arrière pour vérifier que sa fiancée était toujours bien là.
Au ciel de qui se moque-t-on ? Était-ce utile ? Qu'un orage vint au pays de Jeanneton mettre à mal son beau pâturage. Pour ses brebis, pour ses moutons, plus une plante fourragère. Rien d'épargné que le chardon. Dieu, s'il existe, il exagère, il exagère. Là-dessus, méchant glouton, et pas pour un sou bucolique, vers le troupeau de Jeanneton, le loup sortant du bois rapplique, sans laisser même un rogaton, tout il croque, tout il digère. Au ciel de qui se moque-t-on ? Dieu, s'il existe, il exagère, il exagère. Et là-dessus, le coridon, le promide, la pastourelle, laquelle allait au grand pardon, rêver d'amours intemporels. Au ciel de qui se moque-t-on ? Suivi la cuisse plus légère et plus belle d'une goton. Dieu, s'il existe, il exagère, il exagère. Adieu les prairies, les moutons et les beaux jours de la bergère. Au ciel de qui se moque-t-on ? Ferait-on de folles enchères quand il grêle sur le persil c'est bête et méchant. Je suggère qu'on en parle au prochain concile. Dieu, s'il existe, il exagère.
C'est une des dernières chansons que Georges Brassens ait composées. Elle était chantée ici par l'ami Maxime Le Forestier. Donc voilà pour La Passe Miroir, numéro 1, 2, 3 et 4, qui, je vous le rappelle, est maintenant disponible en audio si vous allez sur le site de Gallimard, collection Écouter, Lire. Écoutez, il faut bien rigoler aussi un peu de temps en temps, et je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Si ma tante en avait, ça sent San Antonio », c'est du San Antonio et c'est lu par Antoine de Caunes, que certains connaissent peut-être, c'est le fils du célèbre François de Caunes, qui était un critique de cinéma acerbe et très redouté en France. Une espèce de demi-roi, si vous voulez, mais sur l'acide, carrément. Alors, son fils est comédien et c'est lui qui... je vais vous faire entendre un extrait de « Si ma tante en avait ». Pourquoi ? Parce que je voudrais vous dire quelques mots sur le Grand Prix du livre audio 2020 qui est présenté par La Plume de Pan. 25 audio-livres ont été mis en nomination, dont pas mal d'ailleurs, dont je vous avais parlé dans le cadre de cette émission. Je pense à Le complot contre l'Amérique de Philippe Roth. J'aurais voulu vous parler de Le train d'Erlingen, peut-être que j'aurai le temps de le faire avant la fin de cette émission. Millennium 6, ça c'est Actes Sud qui présente ça. C'est également en lice. Alors, il y a des documents, il y a des essais, il y a des romans de littérature contemporaine et bien sûr littérature jeunesse ado et jeune public qui sont présentés dans le cadre de ces prix audio présentés par La Plume de Pan en 2020. Alors, un extrait, je vous l'avais promis. Moi, j'ai tellement ri, j'espère que ça va vous faire rigoler aussi. Je vous préviens, c'est du San Antonio. C'est du français qui n'est pas du français. Faut avoir un peu l'habitude. On comprend pas tout, mais on sait exactement de quoi il parle.
Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Roger Perfitte, de l'Académie française, par cousin interposé. C'est premier, du genre cauchemar. Je regarde tomber la pluie. Plus exactement, je regarde son ruissellement le long des façades de granit, de toute beauté. Chiant, mais noble. Le granit, franchement, c'est payant pour le noir et blanc. Évidemment, si tu préfères tourner en couleur, vaut mieux filmer une corrida. La flotte dégouline le long des pavés inégaux. Au café de la marine, il y a un marin qui est sorti pisser contre la borne à anneaux qui servait dans les jadis à attacher les bourrins. Une vieille fille à mitaine qui radine en droite ligne de la messe de 8h15, le pébroc en avant, la jupaille enroulée autour des fourchettes à fondu qui lui servent de jambes, crie au mataf qu'il est répugnant. J'entends pas, mais je devine, car je sais lire sur les lèvres des vierges. Le pisseur se volte-face pour montrer son big zob transocéanique à la gonzesse. Il est chibré comme étant corné un cachalot, ses zigues. La vioque se voile la face de son pépin et s'empresse de caleter dans les bourrasques atlantiques. Le beffroi de l'église carillonne on ne sait quoi ni pour qui. Marin perdus en mer, comme chantait papa quand j'étais chiard et que je le croyais immortel, mon dab. Et puis il est mort, et des tas de marins se sont perdus en mer depuis, parce que la vie, bah, t'as beau avoir du poil au cul, jolie madame, elle fonctionne comme ça, et pas autrement.
C'est vraiment... c'est sublime. Déjà, San Antonio, c'est quelque chose à lire, mais alors à écouter par Antoine de Caunes. C'est chez Lizzie, L-I-2-Z-I-E, en version audio. Si vous faites simplement Lizzie, livre audio, vous allez tomber sur ce chef-d'œuvre « Si ma tante en avait » de San Antonio, lu par Antoine de Caunes. Je voudrais vous parler, tiens, puisqu'on... Avouez que c'est vraiment bien lu. C'est là qu'on voit que c'est un métier aussi, quoi. C'est fantastique. Puis c'est complètement nature, c'est complètement... Mais c'est génial, ça nous accroche. Il y en a un autre qui sait faire ça aussi. C'est Dominique Pinon. Dominique Pinon,
C'est un comédien, un très grand comédien, lecteur aussi, bon, français, que vous connaissez peut-être un petit peu moins que ce que le connaissent les Français, mais peu importe. Il y a dans La Plume de Pan, dont je vous parlais, ceux qui organisent ce Grand Prix du livre audio en 2020, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs en 2019, il y a des entrevues qui ponctuent les pages de leur site internet, dont celle-ci de Dominique Pignon, qui est en train de se faire une signature en tant que lecteur de livres audio. Et là, il est avec Christophe Rioux, qui lui demande, entre autres, en ces temps d'accélération généralisée, le sentiment que tout va trop vite, comment le livre audio et la lecture à voix haute peuvent-ils constituer une parenthèse? Et Dominique Pignon, il dit, il favorise une réappropriation du temps. Du vrai temps de lecture. C'est aussi une réappropriation de l'imagination et pas seulement de l'image dans une époque qui semble particulièrement avoir le culte des images. Le livre audio, on lui demande, et la lecture à voix haute ne représentent-ils pas aussi le moyen de recréer un lien avec tout un écosystème de la création ? À partir du livre, en parlant de cette matrice, est-il possible de tisser des passerelles avec le théâtre ou avec d'autres disciplines artistiques ? Pignon répond, c'est effectivement une matrice. Au théâtre, par exemple, où j'ai l'habitude de réaliser des lectures de pièces à une seule voix, cela permet de prendre contact avec un auteur, de faire connaître des textes, de créer une ouverture autrement que par l'entremise des médias traditionnels. Quel est l'impact du plaisir du texte sur l'auditoire? Avec la lecture à voix haute, peut-on parler d'une dimension éducative ou sociale? Le lecteur répond, lorsque je fais des lectures dans des bibliothèques, il y a des gens qui viennent écouter, mais qui n'auraient peut-être jamais pris le livre dans un rayon. Cela provoque une découverte et il peut y avoir en effet un effet social ou éducatif, même si j'aime moins ce dernier mot. Pignon qui dit que quand il était petit, sa grand-mère paternelle, était malade et alitée, et déjà il allait lui faire des lectures et il dit qu'il est même sans doute devenu comédien à cause de ça. C'est vraiment superbe. Si vous faites La Plume de Pan sur Google, vous allez trouver également cet organisme qui se consacre uniquement au livre audio. C'était bien normal que j'en parle et je ferai même une entrevue à un moment avec Cécile qui est la responsable de La Plume de Pan. Puisque je vous parle de Dominique Pignon, ce serait peut-être bien qu'on l'écoute. Eh bien, voici un extrait d'un livre qu'il a tout récemment enregistré, « Les nouvelles aventures du fakir ». Au pays d'IKEA, de Romain Puertolas. Vous savez qu'on se souvient qu'il y avait eu un premier épisode, hein, c'était l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA. Eh bien ça, c'est la suite, et en voici un extrait lu par Dominique Pignon.
Ce n'était plus l'homme qu'il avait connu, grand, maigre, sec et noueux comme un arbre. Des piercings plein les lèvres et les oreilles, et cette gigantesque moustache lui barrant le visage. Ce n'était plus cet homme, qui était monté un jour d'été dans ce taxi en arrivant à Paris avec pour unique ambition de s'acheter un lit à clous. Ce n'était plus ce jeune garçon au torse nu, les yeux couleur Coca-Cola emplis d'illusions, le pagne en forme de couche-culotte qui lévitait au pays pour quelques roupies. Rasé de près, un polo rouge avec un petit crocodile vert cousu sur le torse, son double le dévisageait. Le mot « embourgeoisé » n'était pas écrit à l'encre indélébile sur son front, il était tatoué sur l'ensemble de sa personne comme sur un corps de yakuza. Dans son attitude, ses vêtements et même sa couleur de peau qui avait légèrement blanchi. Le processus de métamorphose en Européen avait commencé et cela le remplit d'effroi. Le fakir était devenu Maharaja. Avait-on besoin d'un petit crocodile sur son polo et d'un réfrigérateur plein pour être heureux? On nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, chantait le grand philosophe Alain Souchon. Mais pas de l'autre côté du monde, pas chez lui au Rajasthan. Et il se remémora les mots de Baba Orom, son maître fakir, lorsque, il y avait près de 30 ans, il avait entamé sa formation. Dans la vie, on ne peut être heureux qu'avec le juste nécessaire, mon garçon.
Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, vision de nous dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale.
Voilà la voix de Dominique Pignon et celle d'ailleurs d'Alain Souchon, citée dans cet extrait de ce fakir au pays d'IKEA. Laissez-moi retrouver le titre exact, Les nouvelles aventures du fakir au pays d'IKEA de Romain Puertolas. Le livre audio Nouvel outil pédagogique pour favoriser l'apprentissage de la lecture, point d'interrogation, c'est un article qui est sorti dans actualité.com et ma foi fort intéressant, où on nous apprend que parmi les avantages observés, le livre audio constituerait ainsi un support idoine à même de contribuer à la fois à l'apprentissage de la lecture auprès des jeunes et ce, à la fois dans et en dehors des salles de classe. Et il est également dit dans ce papier que les mômes qui souvent adorent le livre audio sont des gamins qui n'ouvrent jamais un livre sur papier. Alors de plus en plus aussi, on apprécie le livre audio dont il est question, il n'est même question que de cela, dans cette émission des livres pleins les oreilles qui se referme une nouvelle fois cette semaine. Merci à Martin Desgagnés d'avoir été présent aujourd'hui à cette émission-là en studio et merci à mon ami Mathieu Tessier d'avoir été en régie. C'est Clotilde Sey qui vous souhaite bonne semaine et qui vous dit à la semaine prochaine.